Brestois, Brestoise, avant ce week-end, Angers était invaincu à domicile. Mais avant ce week-end, Angers n'avait jamais reçu le Stade Brestois. Bienvenue pour ce 12e épisode de Brest On Air. Quentin au micro et je suis accompagné par Yann, comme d'habitude, l'homme qui est, lui, toujours présent, toujours au rendez-vous. Salut Yann.
Salut, salut, toujours présent et toujours vainqueur à vos côtés.
Eh oui, tout à fait, et un revenant, puisque Fanch, comme Greg Coupet, il est de retour.
Je suis là, bonjour.
Comment ça va, Fanch?
Eh bien, ça va très bien après ce beau déplacement et cette belle victoire.
Alors, première victoire à l'extérieur, première série de victoires de la saison pour le Stade Brestois, sûrement dans un lieu dans lequel on ne s'y attendait pas forcément, mais finalement, peu importe, hein, ça fait plaisir, d'autant plus que le contingent brestois, dont nous faisions partie d'ailleurs, à Angers, était important. Un match que nous allons d'ailleurs décrypter d'abord avant de passer aux traditionnelles news et de passer à la preview de Brest-Dijon avec Thomas du site internet Le Dijon Show. On terminera enfin avec le retour des jeux et les paris qui, Yann, ne sont pas passés la semaine dernière puisqu'on avait prévu un match à but et finalement Gauthier Larsonneur en a décidé autrement.
Tant mieux.
Et oui.
Alors on va commencer directement par cette analyse de SCO d'Angers Stade Brestois 29. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait fait le déplacement. Un déplacement assez sympa. Il y avait 200 Brestois, 250 Brestois dans le parcage, je dirais.
Bah, c'est difficile à compter. Je ne sais pas si on peut trouver les chiffres ou pas sur le site de la LFP concernant les parcages. Mais ouais, c'était bien plein. Et puis du coup, comme le scénario du match a été favorable pour nous, à la fin, on entendait beaucoup les Brestois et très peu les Angevins, comme ça a été le cas de façon tout le match, hein, parce que c'est pas un stade avec une grosse ambiance. J'avais jamais fait Angers, personnellement. Stade pas top, public pas top.
Et parcage pas top, dans le sens.
Ah oui, parcage pas top, oui.
C'est le parcage avec la vue la plus dégueulasse que j'ai vue en Ligue 1.
Moi, j'ai comparé ça un peu au moustoir. J'avais l'impression d'être un peu dans un moustoir, évidemment, sans une tribune. Et Angers, où la particularité est que le parcage est du côté du COP Angevin.
Oui, donc, c'est un peu particulier. Du coup,
ça
on a
créé quelques.
En fin de match, ouais, des tensions.
Des tensions qu'on avait vues en avant-match avec les Gilets jaunes aussi, qui ont fait une petite aparté alors que les Brestois ne buvaient pas au bar, hein, puisque on le sait, les Brestois ne sont pas trop penchés sur l'alcool. Il y a eu quelques petits échauffourés, mais rien de bien méchant.
En tout cas, je tiens à signaler que le chocolat chaud du bar à côté du Mad Murphy's était délicieux, hein, donc je lui fais de la pub, c'était vraiment très bon. Pour un tarif très modeste, il était vraiment délicieux, bravo à eux. Déjà, le déplacement commençait très bien.
Puisqu'on a parlé donc de ce qui s'est passé hors du terrain, parlons un peu de ce qui s'est passé sur le terrain. Match compliqué pour les Brestois. La semaine dernière, Yann, on a dit qu'on ne s'attendait pas forcément à gagner, ni faire match nul d'ailleurs. On a gagné, on s'attendait à souffrir, par contre, on a souffert.
Ah oui, bien sûr, on a souffert. Après, moi, j'étais pas là avec vous et j'aurais pas dit l'inverse. De toute manière, j'étais d'accord avec ce que vous aviez dit dans le podcast. Je m'attendais à probablement effectivement un match à but, mais je m'attendais certainement pas à une victoire. Et quand on a vu la physionomie du match, je pense qu'on aurait signé. D'ailleurs, je t'ai dit pendant le match, Quentin, qu'un nul à Angers, ça aurait été une pas mauvaise opération. Et c'est un petit peu un miracle, cette victoire, tant Angers, je trouve, a tenu la balle. Et c'est même montré dangereux à de nombreuses reprises. Hein. On va revenir sur les cas individuels après, mais en tout cas, Gauthier Larsonneur, là, il a bien répondu aux attentes qui étaient placées en lui. C'est trois points qui vont faire énormément de bien, tant comptablement évidemment que dans la tête, je pense, sur les capacités de l'effectif à gagner à l'extérieur.
Ouais, de mon côté, du coup, comme on l'avait dit la semaine dernière, je ne m'attendais pas à prendre de points et je m'y attendais encore moins à 1h du coup d'envoi quand on a appris que Ibrahima Diallo n'était pas là. C'est vraiment, c'était le gros coup dur pour moi. Au final, on a su s'en passer, c'est très bien. Et vraiment, ça partait pas.
Mais
sur
je pense qu'il a manqué quand même au milieu de terrain, parce que j'ai pas été forcément super convaincu par Batocchio, moi, contrairement peut-être à Quentin qui en parlera tout à l'heure. Et je trouve que l'abattage de Diallo au milieu de terrain a quand même manqué. Il aurait pu nous soulager davantage.
Après, si on peut pondérer un peu cette mauvaise impression, c'est après 10 minutes, je vous ai quand même trouvé plutôt bon. Bon, ça a duré 10 minutes. Après, on a vraiment coulé face au. À l'allant Angevin, mais les 10 premières minutes étaient bonnes.
Bah c'est quand on joue à 10, c'est compliqué. Je veux dire, on joue avec Mathias Autrette qui ne court pas et qui rate 42% de ses passes, à peu près 40% de ses passes. Donc pour un numéro 10, c'est compliqué. Sachant qu'apparemment, il a râlé au micro à la mi-temps en disant que ça n'allait pas. Déjà qu'il commence peut-être lui à se bouger, ça ira peut-être mieux.
C'est ça, c'est surtout en première période qu'on a beaucoup souffert. Et c'est logique, puisque finalement Angers était l'une des meilleures équipes du championnat, mais surtout à domicile, avec 4 victoires et 1 nul, avec des statistiques assez imposantes, notamment au niveau des buts marqués. Donc finalement, on n'est que Brest, hein. Faut toujours pas l'oublier. Et il y a une certaine logique à ce qu'on soit dominé à Angers. Maintenant, après la mi-temps, ça a été beaucoup mieux, notamment avec le repositionnement tactique décidé par Olivier Dalloglio.
Alors oui, effectivement, on a davantage tenu la balle, on a moins concédé, on jouait plus haut aussi hein, en début de seconde période. Et en fait, le but vient concrétiser peut-être notre... Enfin, du stade, comme tu dis, je trouvais qu'on n'était pas trop mal. Et après, en ayant re-regardé le match en rentrant hier, j'avais un peu tempéré mon avis, parce que je trouve qu'on produit quand même peu de choses offensivement, et c'est quand même très, très, très moyen ce qu'on fait. Mais bon, on était quand même meilleur qu'en première période, et le but vient concrétiser ce passage un petit peu, ce sursaut, si je puis dire. Très beau but, hein, en passant. Et après le but, bon, on recule, mais ça, c'est plus dans la logique de la physionomie d'un match à l'extérieur. Quand tu mènes, t'es pas favori, logiquement, tu attaques moins, c'est sûr.
C'était le gros regret exprimé par Olivier Dalloglio après le match, c'est... Enfin, il a vraiment regretté qu'on n'ait pas joué, et même qu'on n'ait pas essayé de jouer. Et c'est peut-être la première fois cette saison que ça arrive, même si on a déjà joué des gros. Là, vraiment, j'ai eu l'impression, surtout pendant un certain temps, que c'était on a le ballon, on met un sac devant, et puis sauf qui peut.
Bah, j'ai pas souvenir d'une action construite de qualité, en fait, côté brestois, d'une belle action qui aurait pu porter le danger en première mi-temps, notamment. Et en deuxième, à part le but de Cardona, qui est quand même un but, voilà, presque un exploit individuel, la frappe est très belle, voilà. C'est un peu ça, je trouve que c'est un peu inquiétant quand même.
Alors, est-ce qu'il vaut mieux gagner en étant un peu moins bon et en étant moins beau surtout, ou bien
C'est ce que j'avais dit dans le podcast après Monaco.
C'est ce que tu avais dit il y a quelques
après
semaines.
Monaco, j'avais dit que j'aurais bien aimé une victoire un peu serrée. On l'a fait contre Metz, on l'a fait contre Angers. Donc bon, t'as raison hein, quand tu dis qu'on est que Brest, il faut aussi savoir quelle est notre place dans ce championnat. Moi, je m'en contente très largement, mais on peut s'en contenter. Sans pour autant fermer les yeux sur les qualités de jeu. Je pense que si on veut progresser et voir un peu plus long terme, il faut qu'il y ait des... Dans le jeu aussi, ça évolue et que ça évolue positivement. Alors si cette année, on se maintient en jouant comme ça et que voilà, c'est bien, j'en serais très satisfait, mais il faudra voir quand même du progrès dans le jeu, notamment pour les années à venir.
Après, moi, ça me satisfait dans le sens où on a montré qu'on est capable de gagner en étant dégueulasse. Et on s'en souvient... Enfin... De manière indirecte, c'est un peu la spécialité de Jean-Marc Furlan, notamment à Troyes, de descendre en faisant très bien jouer ses équipes, mais en prenant branlé sur branlé. Là, ok, c'était dégueulasse, mais on a su prendre les points. C'est positif dans le sens où on montre qu'on sait pas un peu tout.
Ça met aussi en avant le pragmatisme de Dalloglio. On en parlait qu'il avait changé un petit peu sa manière de concevoir son métier d'entraîneur et qu'il allait changer certaines choses entre son passage à Dijon et sa prochaine aventure, donc là en l'occurrence à Brest. Quand même saluer la qualité défensive de Brest et une solidité. On est vraiment hermétique, on défendait ensemble et assez bas en bloc et ça faisait plaisir parce que du coup on reste sur 2 clean sheets de rang. Après la tôle qu'on avait pris à Monaco, c'est intéressant de voir qu'à ce niveau-là en tout cas il y a eu du travail et des résultats concrets.
Et l'autre point très positif qui est vraiment marqué juste sur ce match contre Angers, c'est qu'au final on a du banc. On s'y attendait peut-être pas, mais on reviendra sur les joueurs qui ont brillé tout à l'heure, mais c'est des joueurs qui jouent pas forcément tout le temps et qui ont vraiment apporté quelque chose.
Et pas forcément à ce poste-là non plus. Quand tu parles peut-être de Batocchio qui jouait plus bas que d'habitude et tout, ça montre aussi une certaine adaptabilité de l'effectif. Donc c'est intéressant.
Pour rebondir ce que tu disais François sur le pragmatisme peut-être de Dalloglio, même quand il est arrivé à Brest, dès les premiers matchs amicaux, ce qu'il disait c'est qu'il voulait vraiment mettre l'accent sur le travail défensif parce qu'il savait que Jean-Marc Furlan avait fait ce qu'il fallait au niveau de la créativité et de l'animation offensive. Et je pense que c'est vraiment maintenant qu'on voit, face à des équipes qui sont un peu plus à notre niveau, plutôt que Bordeaux, Lyon et Monaco, voilà, on voit vraiment qu'on est au niveau défensif de la Ligue 1.
Tu parles du travail offensif créé par Jean-Marc Furlan, c'est d'autant plus vrai qu'il dans l'article, donc il y a un article dans l'équipe qui est sorti, l'équipe internet seulement, samedi, qui parlait de Charbonnier et de ses problèmes offensifs. Et Dalloglio prenait la parole dans ce papier, enfin, il était cité dans ce papier, il disait qu'il laissait vraiment la créativité à Charbonnier, il lui laissait de faire un petit peu ce qu'il voulait, dans la même mesure que Furlan, en fait, où le laissait également faire ce genre de choses, il était assez libre, il veut pas le brider avec des consignes, et donc je pense qu'effectivement, au niveau offensif, il a conservé l'héritage de Furlan, et par contre, sur le travail défensif, il fait du travail de meilleure qualité.
Et tu parlais du pragmatisme, on l'a vu à la mi-temps, où il a vu effectivement qu'on était vraiment en difficulté, notamment dans les sorties de balles. Et je pense que c'est pour ça. Alors, je ne parle pas du Ludovic Ball, par contre. Hein. Attention à tout ça. C'est pour ça qu'il a replacé Batocchio un peu plus bas. Et comme disait Yann en off, il a vraiment dit à Batocchio de ne pas prendre de risques et de vraiment faire tourner le ballon, de conserver le ballon. Et ça coïncide aussi avec le replacement de Mathias Sautresse sur un côté. Et quand on a trois milieux de terrain qui demandent le ballon en deuxième mi-temps plutôt que deux en première mi-temps, voilà, mathématiquement, ça change la donne et on l'a vu sur le terrain qu'on était bien meilleur dans la conservation du ballon en deuxième mi-temps.
Non, jusqu'au but, c'est parce qu'après ça a été plus compliqué dans la conservation. On a quand même beaucoup subi entre la 67e et la 96e, du coup, parce qu'il y a eu moult arrêts de jeu qui étaient vraiment interminables vu les tribunes, et je pense qu'à la télé c'était pareil. Mais ouais, au niveau de la conservation du ballon en seconde période, c'était un petit peu mieux. C'était un peu mieux jusqu'aux 30-35 mètres en juin. Après, bon, là aussi ça restait compliqué de se procurer des occasions, hein. Je crois qu'on a fait que 6 tirs sur le match, non encadré. C'est quand même assez famélique et symbolique de nos difficultés à jouer sur cette rencontre.
Et puis non, aussi là où ça le repositionnement a vraiment apporté, c'est que ce qui nous a étouffé pendant quasiment 60 minutes, c'était le fort pressing des Angevins. À deux au milieu, ça le faisait pas, mais par contre à trois, ils avaient beau presser, presser, ils sont crevés pour rien. Et voilà, j'ai envie de dire que limite, ça peut venir de là le but, dans le sens où ils sont pas repliés, on est allé beaucoup plus vite qu'eux.
Notamment beaucoup plus vite que Matteo Pavlovic, qui, au niveau caravane dans le dos,
Bah, finalement,
est plutôt bien loti.
la blessure de Romain Thomas, qui est involontaire de la part de Charbonnier, parce qu'il subit la faute, en plus Charbonnier, hein, il aurait même pu avoir un carton pour Thomas, c'est peut-être un petit tournant sur le match, parce que je pense que Romain Thomas est bien meilleur que Pavlovic, qui est quand même vraiment pas bon. Et quand on le voit courir derrière Cardona, très belle pointe de vitesse, encore un bel appel de Cardona d'ailleurs, on avait parlé sur le but de Charbonnier contre Reims, Cardona avait un très bel appel. Là encore, il sent bien le jeu, tout en vitesse, une finition qui est bien plus intéressante que ce qu'il avait montré contre Metz. Donc coaching payant en tout cas de Olivier Dalloglio, hein, d'avoir fait. Et puis c'est un coaching aussi, sauf le dernier changement où il fait entrer Duvergne ou pour tenir le score. Et tu disais Quentin, quand on en parlait tous les deux, que tu pensais, je pense à juste titre, qu'il voulait ajouter de la taille pour les dernières minutes de jeu sur les coups de pied arrêtés défensifs, etc. Dalloglio a quand même fait entrer Cardona et Mendy. C'est des changements plutôt offensifs quand même, donc c'est à signaler aussi. Il aurait pu bétonner, hein, je sais pas, en faisant entrer Duvergne plus tôt ou pas, mais c'est intéressant.
Alors, on va peut-être passer aux performances individuelles,
Oui.
directement avec les hommes du match, peut-être. Alors, on s'est mis d'accord pour donner un homme du match commun, et puis ensuite donner un autre homme du match, un deuxième homme du match ou une deuxième très belle performance individuelle pour chacun d'un joueur qu'on a trouvé excellent. Donc, évidemment, l'homme du match commun, c'est Gauthier Larsonneur.
Ah oui, très gros match là. On l'attendait un petit peu au tournant. D'ailleurs, on avait certaines personnes, hein, qui avaient évoqué l'idée de maintenir Donovan Léon dans le but après son très bon match aussi contre Metz. Là, il a été assez bluffant quand même, hein. Même il a même pris des ballons sur des corners. Alors ça, c'était une nouveauté. Mais sur sa ligne, il a été impérial et puis il a fait des sorties un petit peu à la Larsonneur. À un moment, en première mi-temps, il va tout à gauche de sa surface pour tacler un ballon pour éviter qu'il sorte en corner. Enfin, vraiment à fond et très très beau match. Rien à dire. Bravo.
Peut-être qu'on lui a mis un nouvel œil bionique où il voit peut-être mieux la trajectoire du ballon.
Bah,
Il a aussi
il
pris
disait
le
qu'il
temps
voyait encore
de.
un peu flou, hein, d'après ce que le Télégramme ou je sais plus quel le média relayait. Tu lui as mis combien sur le fichier Excel?
8.
Ah oui.
C'est un peu le consensus au niveau des médias. Il y a eu 8,5 dans le Télégramme et 8 dans l'équipe. Donc, homme du match pour l'ensemble des spécialistes présents dont nous faisons peut-être partie. Il a aussi pris le temps de s'étirer sur quelques 6 mètres, c'est
Oui.
ce qui n'a pas vraiment plu aux supporters angevins, mais qu'importe. Yann, Larsonneur, toi, t'es peut-être le moins fan des trois. Après, tu détestes pas Larsonneur, hein, je dis pas ça. Mais tu disais notamment que pour l'instant, et moi j'étais pas d'accord parce que je pense qu'à contre Reims, il nous permet d'être dans le match quand on marque. Pour l'instant, il nous avait pas fait gagner de points. Pour le coup, là, voilà,
Oui.
ça en fait
Trois d'un
trois.
coup.
Oui, là, c'est indiscutable, et surtout, c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'il n'y aurait pas beaucoup de gardiens qui nous auraient fait gagner ces 3 matchs. Vous le savez, je suis très fan de Donovan Léon, mais avec Donovan Léon, on ne gagne pas ce match-là. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et je pense que c'est valable pour les 3/4 des gardiens de Ligue 1. Donc, franchement, c'est juste chapeau, il y a rien d'autre à dire.
Voilà, donc l'Arseneur, homme du match, sans aucun doute pour nous. Mais
Et
on
puis
a
c'est bien, ce
décidé
qui est bien
comme.
aussi, juste, je me permets de te couper, c'est que comme il a fait un très bon match là, bah ça va couper court à tout débat autour de comment dire, sa titularisation. Et il va pas être dans un climat un peu mauvais. Je pense qu'un gardien, Yann, tu pourras me confirmer ou pas, a besoin d'avoir de la confiance pour bien performer. Là, il a mis tout le monde d'accord et je pense que bon, comme il y a eu 15 jours avec le match de Metz et de Lyon, ça va un peu s'oublier ça. Mais on a quand même deux très très bons gardiens et c'est bien pour l'effectif.
Et là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je le connais pas personnellement, mais pour ce qu'il dégage, je pense que c'est le genre de mec, tu lui mets de la concurrence, il va éclater tout. La concurrence, ça va le motiver, il veut pas s'écrouler. Donc aussi bien, c'est justement le match de Léon qui l'a poussé à vraiment s'arracher encore plus. Donc je pense
Ah, c'est
que...
possible, hein, ça doit certainement jouer.
Moi, je pense mentalement, ouais, c'est un mec ultra ultra solide. Ça fait depuis une dizaine d'années qu'on lui dit qu'il n'arrivera pas à passer les échelons. Et finalement, à chaque fois qu'on lui met un obstacle devant lui, bah, il le défonce, quoi. On a aussi décidé de mettre en valeur chacun un joueur qu'on a trouvé excellent. Donc Yann, tu vas peut-être commencer?
Moi, je vais commencer pas forcément un joueur que j'ai trouvé excellent en soi, mais je vais commencer avec Paul Lannes, dans le sens où c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on a vu jusqu'ici. C'était pas exceptionnel non plus, mais je crois qu'il a été nommé dans l'équipe de la semaine de l'équipe, avec un 6. C'est assez mérité dans le sens où il y a un gros travail défensif. Il y a eu aussi des volontés de jouer vers l'avant, qu'on n'avait pas forcément vu. Donc, je
Passe
suis sûr
décisive.
qu'il peut mieux faire, mais c'est, et de loin, son meilleur match depuis le début de sa carrière à Brest.
Moi, dans ce que tu dis, je retiens surtout le peut mieux faire, parce que je suis pas encore convaincu totalement. Mais bon, j'attends de voir.
Et on retiendra qu'il est bien meilleur dans l'axe que sur un côté, comme il l'a été en première mi-temps. Ça, je pense que personne n'en doutait, mais c'est bien de le voir et
Il a un
de
bon jeu de
vraiment en
passe.
être sûr.
Il a un bon jeu de passe, on voit sa passe décisive, mais même en première mi-temps, je peux se souvenir la passe pour Charbonnier qui fait un petit peu le long de la ligne de touche, qui retourne vers le centre du terrain, bien
Oui,
appuyé.
tout à fait.
C'est à retenir, c'est pas mal.
Par contre, c'est pas lui qui va accélérer le jeu, tant par ses passes que par
Mais c'est un peu le
ses
problème de notre
percées
milieu de
balle au
terrain.
pied.
C'est un peu le problème de notre milieu de terrain parce que ce soit lui, Belkebla ou Diallo, donc je trouve que c'est pas, c'est des, bon, c'est tous des très bons joueurs surtout Belkebla et Diallo dans leur registre, mais c'est pas des joueurs qui vont apporter le danger. Et ça, c'est ça qui m'embête un peu moi. On n'a pas ce joueur-là, ça devrait être retraite, mais bon voilà. Mais on n'a pas ce joueur-là qui arrive à casser les lignes, à faire le décalage suffisant.
Fange, c'était pour.
Ben, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est maintenant un habitué, donc je vais parler de Ludovic Ball plutôt, que j'ai trouvé très intéressant sur ce match. Il a remplacé Romain Perraud au pied levé et pour son premier vrai match, parce qu'il avait joué un petit peu à Saint-Etienne et même pas à ce poste-là. Mais très intéressant, j'ai trouvé assez sûr quand il est défensivement. Et offensivement, il a fait ce qu'il savait faire. Bon, peut-être un peu moins offensif que Perraud, mais moi je l'ai trouvé très consistant. Je ne serais pas contre le revoir titulaire contre Dijon dès samedi. Ludovic Ball, très bonne surprise et très, très agréablement surpris par sa performance.
La
On va
surprise
voir comment
de...
Perraud arrive à justement. On parlait de Gauthier Larsonneur qui écrase un peu la concurrence quand il y a de la pression. On va voir ce que Perraud va être capable de faire, lui qui a repris l'entraînement mardi.
C'est ça, c'est surtout le côté de surprise autour de Ludovic Ball, puisque finalement on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et moi je l'ai trouvé, pour un joueur qui est quand même assez âgé, pour un joueur de foot, hein, très très puissant et très rapide.
Surtout pour un gars qui n'a
Et
pas
ça...
joué depuis hyper longtemps.
C'est ça, et je m'attendais vraiment pas à ça. Et du coup, effectivement, la surprise est importante et très agréable.
Et je pense que ça fait aussi partie du constat d'Yann avant le match quand il disait, quand il a vu la compo, en voyant que Diallo était pas là. En plus de ça, on avait Ball derrière, on savait pas trop. Donc effectivement, c'était un peu voilà, pas qu'on marchait sur des œufs, mais on était un peu ignorant concernant ce que l'équipe allait produire. Et donc dans l'ensemble, c'est une très bonne surprise.
Et une autre bonne surprise sur le Doig Bell, c'est que j'ai trouvé, même s'il a quasiment pas joué avec l'équipe jusqu'ici, il avait de très bons automatismes, tant avec les centraux qu'avec les mecs autour de lui. Ça prouve que le groupe travaille bien au quotidien, quoi. Même ceux qui jouent pas sont pleinement intégrés.
Oui, et puis Quentin, tu parlais de ça, je crois que c'est toi qui en discutais. Tu disais aussi que voir une performance comme ça, effectivement, après n'avoir que très peu joué, ça montre aussi la qualité du mec, je pense, dans sa mentalité, dans sa volonté de travailler sans faire de bruit et d'être un mec dans un effectif, enfin, un complément, même si je puis dire. Là, il a été super intéressant. Je pense que la mentalité du groupe est bonne et lui participe à cela. Ça doit être un leader vu son âge, vu son expérience, on n'en a pas beaucoup. C'est vraiment une excellente surprise.
C'est ça, c'est ce que j'allais rajouter. C'est son côté professionnel qui est ressorti de ce match. Toujours être prêt quand on fait appel à lui. Et à ce titre-là, je pense que ce sera vraiment un très bon modèle pour Romain Perraud. Et avoir un joueur comme ça de 33, 34 ans dans un vestiaire qui connaît la Ligue 1 et qui en plus a ce côté professionnel et qui, je pense, est enclin à vouloir aider les jeunes. On rappelle aussi qu'il a quand même fait un essai de presque un mois à Brest, que finalement il était parti et que Brest l'avait finalement signé. Bah, ça montre aussi que je pense qu'il voulait être là. Alors du coup, je vais enchaîner avec Christian Batocchio, que j'ai trouvé pour sa deuxième titularisation en Ligue 1, il me semble, puisqu'il avait joué, il avait démarré à Nîmes, où là ça s'était pas très très bien passé. Il avait aussi manqué la préparation, ou un grand morceau de la préparation, donc on
Oui.
pouvait comprendre que sur les premiers matchs, et notamment sa première titularisation, il y avait quelques problèmes. Et là, le problème était plus collectif à Nîmes, puisque personne n'avait en gros été bon. Et là, pour le coup, contre Angers, dès le début du match, je l'ai senti beaucoup plus motivé, beaucoup plus disponible, toujours demandeur du ballon, ce qu'on a retrouvé encore plus en deuxième mi-temps quand il a été repositionné un peu plus bas. Et voilà, très, très bonne surprise, Batocchio. J'espère que ça pourra peut-être relancer sa carrière.
C'est quand même pas le même Batocchio depuis qu'il est revenu, déjà dans ses performances et aussi au niveau tout simplement du poste où il évolue. Je trouve qu'il joue quand même plus bas, on lui demande pas la même chose. Donc peut-être que les gens sont déçus aussi par rapport à ça, parce qu'on était habitué lors de son premier passage à le voir plus décisif, buteur-passeur. Là, il a un rôle un petit peu, tu disais pendant le match, à la Grougie lorsqu'il jouait avec Furlan très bas, à venir chercher les ballons entre les deux défenseurs centraux et le remonter et le distribuer le jeu. Donc il n'a pas le même rôle. Faut aussi s'adapter à ça pour nous et comprendre pourquoi. Enfin, faut attendre moins, je pense, au niveau des stats pour Batocchio.
Actif dans le pressing et actif dans les récupérations du ballon. Donc moi j'ai beaucoup aimé Batocchio et alors je sais pas s'il sera titulaire parce que évidemment Ibrahima Diallo va revenir, mais en tout cas c'est de bon augure pour la suite de la saison.
Tout à fait.
Donc on a parlé Batocchio, Ball, Denis Bain Castelletto encore très bon. Voilà Denis
D'ailleurs, à
Bain
propos là,
surtout.
il y a les mecs de l'équipe, je me demande s'ils regardent les matchs quand même, parce que on peut trouver sur leur site internet les notes, et puis enfin même sur le journal, et dans le site internet, ils font un détail de chaque joueur, joueur par joueur. Et ils mettaient pour Bain en retard, difficulté de placement, etc. Alors que non, enfin, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent, très rapide, bon dans l'anticipation, même balle au pied, des progrès fulgurants. Vraiment très fan de ce joueur. Recruté d'ailleurs pour Quentin, je ne sais plus la somme.
0 euro, il me semble,
Ah
hein.
oui, 0 euros,
Je
c'est
crois
ça.
qu'il a rien coûté du tout.
Absolument.
Donc on est presque sûr de faire un bénéfice, évidemment, si on ne compte pas les salaires et autres primes liées à cette titularisation et ses éventuels buts, qu'on espère nombreux, même si bon, ça part pas sur des bases exceptionnelles. Mais encore voilà, Denis Bain, match après match, qui s'impose comme
Un
peut-être pas le
taulier.
patron, parce que effectivement Castelletto est aussi fait aussi des performances qui sont d'ailleurs meilleures depuis quelques matchs, je dirais. En plus d'avoir marqué un but contre Metz. Mais voilà, vraiment, Denis Bain,
C'est bien.
c'est quelque chose. Denis Le Saint, comme on pourrait l'appeler.
Sur retraite, moi c'est la déception depuis plusieurs matchs. Hein. Bon, il a fait un bon début de saison, voilà. Depuis c'est beaucoup plus dur et je pense qu'un petit tour sur le banc ne ferait pas de mal à Mathias Autret.
Tout à fait, moi je suis assez d'accord avec toi. Beaucoup trop passif dans le rôle qui lui est demandé. Trop peu influent sur le jeu
Pour un
brestois dès le
capitaine,
début.
mince, quoi, je veux dire, il n'est pas dans l'esprit. Hein.
Et voilà, et c'est aussi dans le rôle défensif qu'on lui demande déjà que si Charbonnier ne. Alors,
Et
beaucoup mieux
Charbonnier défend
Charbonnier
plus que
depuis quelques
lui.
matchs. C'est ça que tu voulais dire aussi?
Bah ouais, c'est Charbonnier, il fait plus d'efforts que lui, c'est embêtant quand même.
Je nuançais un peu sur Charbonnier qui, je trouve, depuis le match de Metz, fait un peu plus d'efforts dans défensif. Quelques retours intéressants en sprint. Mais si lui et Mathias Autret ne font rien, Ça va être difficile de gagner des matchs et même de faire match nul. Hein.
On
On
peut
se
pas se
prendra rabattre
permettre
sur
de
rate comme
défendre
on
à
l'a
neuf.
vu en première mi-temps.
On peut pas se permettre de défendre à neuf. Là, c'est passé contre Angers, mais ça passera pas à chaque fois.
Peut-être un petit mot sur le pressing de Belkebla dans les arrêts de jeu pour aller chercher une touche au niveau du corner adverse, du point de corner adverse.
Harris FC, c'est tout.
Alors pour finir sur ce Brest-Angers, peut-être un petit mot sur le buteur. Irvine Cardona qui confirme ses bonnes impressions quand il rentre avec un but qu'il mérite, je pense, depuis ses entrées contre Nîmes déjà, contre Reims aussi, et contre Metz, où il avait eu de grosses occasions. Cette fois, avec la petite erreur de Ludovic Butel, elle est allée au fond.
Ouais, moi, je vais dire un truc peut-être qui. Parce que Odalovio a parlé de Jean-Pierre Papin en comparaison. Moi, je vais dire un truc peut-être qui va. Pas choquer, mais en tout cas, j'y pensais, peut-être une populaire opinion. Il m'a fait penser son but au début de carrière de Nolan Roux à Brest, en fait. Frapper sans réfléchir. Bah, quelqu'un peut-être un peu plus rapide que Roux. Ça m'a fait penser un peu à ça. Son physique, hein, le blond, machin, c'est un peu con à dire, peut-être, mais ouais, c'est ce qui m'est venu en tête en pensant à préparer ce podcast. Lui, tiens, il y avait un peu de Nolan Roux, bonne époque, dans ce geste.
Il y a quelques semaines, Yann avait fait le parallèle, non?
Ah, pardon. Bah, c'est cool parce que moi je place beaucoup d'espoir en lui. En plus, il nous appartient. Il est jeune. 22 ans, tu disais dans la voiture quand on en
Oui, c'est ça,
parlait.
22 ans.
Donc ça reste quand même relativement jeune, hein, pour un attaquant en Ligue 1. Bon, c'est pas un gars de 18 ans, mais il y a moyen de faire progresser ce joueur et d'en être de qu'il trouve sa place dans l'effectif. Là, depuis le début, il est remplaçant. Je crois pas qu'il ait commencé comme titulaire une seule rencontre. Mais why not, hein, pourquoi pas. Là, je pense que il pourrait postuler. Alors voilà, je pense qu'on a été complet sur ce match à Angers, que nous avons bien apprécié tous les trois, en tout cas au niveau du déplacement et du match, ainsi que du résultat. Et je pense que nous allons pouvoir passer maintenant aux news.
On commence, comme d'habitude, par les résultats des jeunes et des féminines.
Et comme
Et
d'habitude.
comme d'habitude, comme depuis plusieurs semaines, tout le monde a gagné. C'est vraiment.
Je pensais à ça ce matin. Tu disais dans le podcast où j'étais absent, très bon podcast d'ailleurs, peut-être parce que j'étais absent, que les résultats chez les jeunes, c'était pas très important. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand on voit semaine après semaine que ça gagne, que ça gagne, que ça gagne, est-ce qu'on peut pas quand même tirer un petit bilan ou en tout cas comprendre que la formation brestoise, c'est quelque chose de cohérent et de solide?
On peut tout à fait le faire. Après, il y a évidemment l'imbroglio U18 qui, eux, jouent contre des équipes majoritairement amateurs, donc qui sont logiquement un
Ouais.
peu moins bonnes. Mais il faut quand même faire le taf et une victoire comme le week-end dernier 5-1 contre Guipava, voilà, il faut quand même mettre les 5 buts, quoi. Donc,
Parce que même
mais
chez
effectivement.
les filles, chez les U17, chez les U16, enfin ça gagne dans tout. Et là, par exemple, U16 et U17, c'est les championnats nationaux.
Non, pas U16.
U17 en tout
Seulement
cas.
U17.
U17, ouais, pardon.
Mais
U17.
effectivement, oui, c'est là les
Parce qu'ils ont
U16
21 points en
premiers.
7 matchs.
C'est ça, avec 7 victoires pour 2 défaites. Et plus que les joueurs, c'est surtout l'impression collective que l'équipe dégage qui est assez impressionnante. Notamment à domicile où ils sont vraiment sur une série assez excellente.
Je te laisse donner les résultats du coup.
Alors on commence par la N3 qui reprenait son championnat entre 2 semaines de coupe. Victoire à Lannion. 3 buts à 1, but de Kylian Benvindo, de Samuel Gentil et de Rafiki Saïd, donc les trois joueurs offensifs de l'équipe de Laurent David. Visiblement, c'est la deuxième victoire de la N3, donc qui semble avoir trouvé un certain rythme après un début de saison très très compliqué, notamment du point de vue défensif. Ils sont dixièmes, donc ils sortent de la zone de relégation, et ils ne jouent pas ce week-end, puisqu'il y a un nouveau tour de Coupe de France, le sixième. Avec 4 clubs nord-finistériens encore en lice. Les 4 d'ailleurs reçoivent. Plabennec qui reçoit Fougères, Milizac, donc un club de R1 qui reçoit Dinard, un club de R2, Guipava, club de R1 qui reçoit Lannion de Theix, club de R2, et Bourblanc, club de R2, donc le petit pousset du Nord-Finistère, qui reçoit le CS Béton, club de R3, donc Bourblanc qui est aussi l'autre club de Denis Le Saint, qui n'est plus président mais qui l'a été pendant un certain temps. On en parlait tout à l'heure, les U18 se sont imposés contre Guipava à Penellen. Victoire tranquille, 5 buts à 1. But de Karim Msaïdi, donc un doublé pour Msaïdi. Doublé pour Chris Basakila également. Et un but de Rémi Mauguin. Début de saison toujours parfait avec 4 victoires en 4 matchs. Et les U18 de Michael Plaine joueront à Plouvorne, 15h, ce samedi pour leur deuxième match de Gambardella. ce qui correspond au premier tour régional. La U17, on en parlait aussi tout à l'heure. Alors si Angers s'est fait battre à domicile contre Brest, ils se sont par contre fait humilier à Penellen, puisque les U17 se sont imposés 4 buts à 0, un doublé de Corentin Bernard, un but de Benjamin Le Foll et de Matteo Da Silva, donc 4 buts locaux, puisque Corentin Bernard vient de Crozon, Benjamin Le Foll de Locmaria Plouzané, puis de Plouzané, et Matteo Da Silva de Landerneau, il me semble. Quatrième victoire consécutive, les U17 sont impeccables à domicile, puisque 4 matchs, 4 victoires, 14 buts marqués, 1 but encaissé. Ils sont logiquement premiers avec 21 points et ils joueront chez le voisin costa-ricain qui est lui deuxième dimanche à 11h. On termine par l'équipe féminine qui s'est encore imposée, cette fois à Bergerac, donc le dernier qui a des stats assez dramatiques. Victoire 5-0 des joueuses de Christophe Forest avec des buts de Winnie Mapangu, un doublé de Safia Tal, donc deux et troisième but de la saison pour la jeune internationale française, Alexandre Renaud et Myriam Zanoubi qui a marqué le dernier but. Elles sont deuxièmes avec 15 points juste derrière ici les Moulineaux et elles joueront dimanche à 14h à Penellen face à Saint-Maur. On a fait le tour, donc on va peut-être passer aux anciens joueurs, hein, la rubrique traditionnelle qui suit les résultats des jeunes et des féminines.
Bah encore cette fois, malheureusement, cette semaine, une semaine un peu pauvre.
Il y a Nolandro qui a raté le but vide quand même. Hein. Encore une fois, à Niort. Ah oui, tout seul devant le but, il tire au-dessus.
Non, bah il y en a un qui, lui, n'a pas loupé. Par contre, c'est Steven Joseph Monrose qui a marqué son troisième but en trois matchs. Bon, c'est que le championnat azéri. Mais son équipe est deuxième actuellement. Voilà, c'était sur une victoire 3-0 contre Zira. Mais c'est le seul Brestois qui semble avoir marqué. Bah, puisqu'on en est à saluer les bons débuts de saison, moi je vais saluer Robin Lenormand et du coup par la même occasion son défenseur numéro 1, à savoir Alban. Robin Lenormand a joué ce week-end les 90 minutes et son club est, si je ne m'abuse, quatrième en championnat, la Real Sociedad. Peut-être un Brestois en Ligue des Champions l'an prochain.
Et peut-être Brest en Ligue des Champions.
Pas un Brestois de formation, mais il est né juste à côté de Guingamp, donc bon, on ne lui en veut pas, ça arrive, mais voilà, il n'est pas parfait ce Robin Lenormand.
Oui.
Alors pas de Bruno Grugier non plus, comme on l'a dit. Par contre, il y a eu la sortie du poster. Un poster. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, ce poster, avec cette photo prise sur le parvis de la mairie, ou plutôt sur le toit de la mairie?
Je trouvais moche l'idée de faire ça sur un ciel gris et tout, mais apparemment, Yann disait que ça rendait bien sur la photo, donc ils ont dû utiliser
des
photos.
Il y a un gros travail de montage derrière.
Hein. D'accord.
Comparer la photo et le poster, c'est pas les mêmes.
Ok, bon bah. En tout cas, il y avait la foule.
C'est vrai que.
Il y a un petit engouement, hein, l'engouement de la montée. Là, il y a plein de jeunes qui étaient avec des trucs Stade Brestois. J'ai vu même dans le Télégramme un papy qui disait qu'il avait acheté le maillot et qu'il allait faire dédicacer pour ses petits-enfants en Finistère Sud. C'est bien, faut que ça passe aussi par ce genre de choses et ce genre de manifestations pour que les gens s'identifient au club. Et d'après ce que l'article disait, les joueurs étaient assez bienveillants, polis, ils étaient disponibles et tout, donc c'est très bien pour jeune. Moi, j'y suis pas allé, mais je pense que si j'avais eu 12-13 ans, ou même un peu plus ou un peu moins, j'y serais allé et j'aurais attendu ce moment avec impatience.
Par contre, on peut néanmoins être surpris que lors d'une année d'élection municipale, la sortie du poster se fasse à la mairie, alors que d'habitude, ça se fait plutôt au stade. Voilà, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ça reste à confirmer, ouais, mais voilà, d'habitude ça se fait plutôt au stade.
Dans la sauce, le maire.
Alors les news, c'est terminé, passons à la troisième partie de ce podcast, c'est la preview de Brest-Dijon, un match très important, un match à notre portée, un match à domicile, c'est toujours plus agréable que voir les matchs à la télé. Et pour discuter de ce Brest-Dijon, j'ai interviewé Thomas, donc du site internet Le Dijon Show. Et on se retrouve juste après.
Comme le veut la tradition, je vais te laisser présenter. C'est un site internet, hein, il me semble, le Dijon Show.
Alors en fait, le Dijon Show, c'est un média d'actualité géré par des supporters autour du club de Dijon. Avant d'être un site internet, c'était une page Facebook, puis un compte Twitter, puis un compte Insta, puis ensuite un site internet, pardon. Et puis on a aussi une chaîne YouTube. Enfin, on crée tout type de contenu en fait autour du club, que ce soit des vidéos, des photos, on essaie d'être accrédité sur des matchs quand on peut, on fait des visuels, on fait des articles, et voilà, on essaie d'être le plus complet possible sur l'actualité de notre club, tout en étant bénévole bien sûr.
Parlons sportif maintenant. Dijon fait un début de saison peut-être conforme à vos attentes?
Bien sûr, on est 19e, donc sportivement parlant, ça reste assez compliqué. Mais
vous n'êtes pas lâché comme personne n'est lâché d'ailleurs.
Non, c'est très très homogène pour l'instant et on a fait un début de saison auquel on s'attendait au final parce que on savait que le mercato mettrait beaucoup beaucoup de temps à se décanter, que on venait de changer d'entraîneur cet été et voilà, ça s'est joué vraiment dans... le mercato s'est joué dans les dernières minutes. On a fait pas mal de recrues et de bonnes recrues dans les derniers jours et du coup au mois d'août on avait pas Tavares et on avait pas vraiment de joueurs offensifs vu qu'on avait perdu Saïd, Slichy, Kwon, donc un peu toute notre attaque et du coup on s'y attendait hein, à commencer par 3-4 défaites d'un coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis au final depuis que les recrues sont arrivées ça va beaucoup mieux. On est sur les 6 derniers matchs, donc depuis la fin du mercato on a fait qu'une seule défaite et on a pris que 3 buts, donc c'est vraiment pas mal et ça commence à bien jouer au ballon là, donc je pense que l'avenir risque d'être assez intéressant pour le DFCO. Après bien sûr on est 19e et là on a un calendrier assez compliqué mais je pense qu'on peut prendre une dizaine de points, 10-12 points jusqu'à la trêve et puis après décoller en deuxième partie de saison.
Bon, justement, tu parlais de l'attaque qui a du mal à se mettre un peu en route. Alors selon les statistiques avancées, je crois que c'est un peu en trompe-l'œil hein. Vous manquez d'efficacité plus que un manque de création d'occasion.
Ouais, on se crée beaucoup d'occasions. Bon, à part ce week-end à Lyon où très honnêtement, c'est un miracle qu'on ramène un point. On a défendu tout le match. Enfin, on a plutôt bien joué pendant 30 minutes sans se créer de très grosses occasions. Et après, on s'est contenté de défendre et on s'est reposé sur Alfred Gomis qui a fait un match incroyable. Et c'est vraiment le seul match de la saison où on s'est pas du tout créé d'occasion. Mais alors, sinon, tous les autres matchs, on a surdominé contre Marseille. Et au final, on fait 0-0. On a gagné 1-0 contre Strasbourg. Après, ça se joue à chaque fois d'un but. Et c'est vrai qu'on a fait des poteaux. On a manqué vraiment d'efficacité, même en début de saison, quand il manquait beaucoup de joueurs offensifs.
Alors, beaucoup de, entre guillemets, spécialistes mettaient Dijon dans la charrette en début de saison, avant le début de la saison. Est-ce que toi, tu étais plus optimiste et est-ce que tu l'es encore plus, peut-être, après le dernier match de Dijon?
J'étais optimiste parce que Stéphane Jobard qui arrive à la tête du club, c'est quelqu'un qui vit pour le DFCO et qui donne tout pour le club. C'était un joueur avant au DFCO, il a fait toutes ses gammes ici et voilà, il veut tout faire pour recréer un vrai projet de jeu et même en dehors du jeu et j'étais optimiste au début de la saison. Après, le gros problème qu'on a en ce moment à Dijon, c'est la relation entre le club et les supporters, puisqu'on a nos supporters qui font grève depuis le début de la saison parce qu'ils ont été, notre groupe d'ultra, les Lingons Boys, parce qu'ils ont été relégués dans un coin de la tribune alors qu'ils étaient derrière les buts depuis plusieurs années et que ça marchait très bien et qu'on avait une très bonne ambiance à Dijon. Du coup, on a un peu de mal à domicile à enflammer les débats. Parce que ça ressemble à une cathédrale, quoi. On n'entend pas grand chose et il n'y a pas vraiment d'ambiance. Et c'est ça le côté négatif qu'on pouvait avoir depuis le début de la saison et même avant, parce qu'on savait très bien que malheureusement le club et les Lingons n'allaient pas forcément s'entendre sur ce qu'ils voulaient et que la grève allait durer et que si on ne prend pas de points à domicile, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, pour l'instant, on a pris des points à l'extérieur. On a pris aussi des points à domicile, mais attention sur ce côté-là, en fait, sur ce côté supporter club, c'est ça qui finalement pourrait nous porter préjudice cette saison dans la course au maintien, je pense.
Alors j'imagine comme nous que tu vois ce Brest-Dijon comme une opportunité de prendre des points.
Ouais. oui, c'est déjà le match des retrouvailles avec Olivier Dalloglio. Que j'adore et que tous les Dijonais, je pense, adorent. Un coach qui nous a vraiment marqué et qui a apporté énormément au club et qui a permis à Dijon de se faire connaître, non pas juste par sa moutarde, mais par son jeu de football. et voilà, c'est un sacré coach et vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Donc, après, avec tout le respect qu'on a pour lui, on espère quand même prendre les 3 points ce week-end. Mais je crois que Brest est invaincu à domicile depuis 6 mois, 7 mois. Donc,
En tout cas, cette saison, après, bon, c'était la Ligue 2, donc évidemment, c'est plus
oui,
facile.
ouais, mais quand même, enfin, c'est une bonne stat. Par le passé, on a déjà gagné à Brest quand on était en Ligue 2. C'est un stade qui nous a déjà réussi, mais bah bon, on verra. On verra si. Ce serait bien pour nous de prendre les 3 points parce qu'on joue le PSG après, mais si on prend un point au Brest, parce que connaissant Olivier Dalloglio, je pense qu'il va tout faire pour nous la mettre bien. Hein. Et donc si on prend un point, ce sera déjà pas mal, je pense.
Parfait. Bah, je te remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour nous répondre. Et okay. Bon match.
Merci à toi.
Bon match samedi.
Ok, bah merci à toi, bon match et que le meilleur gagne du coup. Hein.
Ou pas nécessairement, hein. C'est pas nécessaire.
Oui, ou pas nécessairement. C'est vrai.
Alors messieurs, Brest-Dijon, comme je l'ai dit en introduction, c'est un match important à notre portée. Ce sera difficile de faire un faux pas, surtout après deux victoires consécutives. Il y a vraiment moyen d'enclencher la troisième pour le coup.
Bah, on avait parlé après Monaco, on avait dit que la défaite à Monaco était un petit peu inquiétante parce qu'on avait pris 4 buts, etc. Mais que finalement, on pouvait la comprendre parce qu'on n'est que Brest. Et que le triptyque de match Metz-Angers-Dijon, et en rajoutant même d'ailleurs celui d'Amiens dans 10 jours, dans une semaine, ça sera très important. On a déjà fait 6 points sur 6 possibles, donc on s'est mis dans une situation favorable. Je pense que vu les matchs qui nous attendent après, c'est-à-dire Nantes, PSG, etc., il faudrait absolument prendre les 3 points contre Dijon. Et une fois n'est pas coutume, je suis confiant avant ce match.
Est-ce que toi aussi, Yann, tu es confiant avant ce match ?
C'est bizarre parce que si vous vous rappelez bien, dans les premiers podcasts, j'étais le premier à me foutre de la gueule de Dijon en disant que ça allait descendre directement. Les 4 premiers matchs m'ont clairement conforté dans cet avis-là. Puis ben, en fait, leurs 3 derniers matchs plus le match contre Lyon qui est miraculeux, c'est une équipe qui en fait a très vite progressé et au final n'est pas si ridicule que ça. Donc en fait, je m'attends un peu à un match comme celui de Metz où ça va être très disputé.
Pour confirmer ce que tu dis, Yann, au niveau des résultats, effectivement, je rebondis juste pour illustrer ce que tu dis. C'est une victoire 1-0 à Reims, une victoire 1-0 face à Strasbourg à domicile et 0-0 contre l'OM à domicile.
C'est une victoire 2-1 à Reims, il me semble.
On en revient au même.
On en revient au même, oui, c'est ça. Mais en tout cas, solidité défensive sur les derniers matchs, c'est plutôt inquiétant pour nous. Non, je ne pense pas, mais faudra percer le verrou dijonnais.
Mais il faudra que les Dijonais percent le verrou brestois aussi, puisque nous aussi, nous sommes plutôt solides depuis quelques matchs. 2 en l'occurrence. Après, là, effectivement, l'échantillon n'est pas très, très important, mais c'est toujours mieux que rien. Et c'est mieux que de prendre 8 buts sur 3 matchs, comme on l'avait fait sur les 3 matchs précédents. Par contre, donc c'est offensivement que les Dijonais ont quelques problèmes. En revanche, bon, comme le disait Thomas, c'est plutôt. Ils se procurent beaucoup d'occasions, mais une efficacité qui est assez ridicule.
Un manque de talent, je pense aussi, dans cette équipe.
Un manque de talent. Et c'est avec le talent qu'on marque des buts, hein. Ou alors il faut avoir un peu de chance. Et pour le coup, Dijon manque des deux. Donc pour l'instant, effectivement, ça coince au niveau offensif. Mais au niveau des statistiques avancées, on voit que Dijon aurait dû marquer plus de buts.
On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a un indicateur statistique qui s'appelle les XG, ou Expected Goal, qui, en gros, prend en compte toutes les situations passées et dit combien de buts ton équipe devrait avoir marqué. Et si on prend le classement de cet indicateur, Dijon est 9e. Donc, ça devrait être la 9e meilleure attaque du championnat, alors que là, ils sont le dernier et de loin, quoi. Ils ont marqué que 5 buts.
Voilà, juste pour rebondir sur les XG. Donc, en gros, c'est une évaluation des occasions de buts.
Moi, c'est pas une stat qui me plaît des masses parce que c'est très 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 subjectif en fait. Ça aurait dû être but, non. Il y avait un gardien et des défenseurs, ils les ont pas mis au fond, ils sont pas bons, c'est tout. Il y avait aussi tout ce qu'on appelle le réalisme, l'efficacité. Bon, Brest avait, j'ai regardé les XG justement d'Angers-Brest. Bon, effectivement, on est censé perdre le match 5-0 et finalement on le gagne. Donc, je préfère les faits que les
Mais pour. Au niveau des statistiques, c'est plus parlant que, par exemple, les tirs et les tirs cadrés. Quoi.
Ouais, d'accord. Ouais.
Ça évalue la qualité des occasions. Donc voilà, ça reste des stats. Donc c'est un outil. On ne peut pas non plus se baser uniquement sur les statistiques. Mais je pense que ça montre quand même que Dijon se procure des occasions, peut-être un peu plus que nous. Et que le nombre de buts qu'ils ont marqués depuis le début de saison ne reflète peut-être pas le contenu de leur rencontre. Alors messieurs, On a terminé le match contre Angers en 4-3-3. On l'a commencé en 4-2-3-1 comme depuis le début de la saison. Est-ce que vous êtes plus partisan de rester sur la bonne impression qu'a laissé donc ce 4-3-3 avec évidemment le retour de Diallo, ou bien un retour en 4-2-3-1 avec Diallo qui remplacerait sûrement Batocchio?
À domicile, je serais resté sur la composition de Metz, moi. Avec peut-être un changement en mettant Cardona devant et en l'enlevant aux traites. Voilà, c'est ce que j'aurais fait.
Yann, un petit avis tactique, on connaît tes capacités d'entraîneur, un joueur de Football Manager qui est totalement expérimenté de ton côté. Donc,
Je peux me tromper, mais je pense que si Diallo revient, ça serait plutôt en lieu et place de Paul Lannes. Et Batocchio sortirait pour Johan Cour qui n'était pas là à Angers, mais qui a totalement sa place dans le 11. À moi, et ça serait la solution que je préconiserais personnellement, c'est de sortir Samuel Grandsir, qui ne m'a encore pas convaincu.
Oui, oui, t'as raison.
Batocchio et Cour.
T'as raison, je parlais d'Autrette, mais peut-être que Grandsir devrait sortir avant, parce qu'Autrette a quand même plus prouvé que Grandsir. Je te rejoins, t'as raison, tu me fais changer d'avis.
Alors ça va dépendre aussi du système. Parce que si on joue en 4-3-3, est-ce qu'il quand même, il vaut peut-être mieux avoir Grandsir sur un côté qu'Autrette? Alors que si on reste en 4-2-3-1, là, effectivement, tu laisserais Autrette.
Ah oui, mais après, moi, j'ai dit que je vais rester en 4-2-3-1.
Tu mettrais Cardona sur un côté à la place de Grandsir.
Pourquoi pas?
Ça me va très bien, ça.
Donc, on part plutôt sur un 4-2-3-1, tout en sachant que les Dijonais évolueraient sûrement dans le même système tactique, puisqu'ils sont très 4-2-3-1 également du côté de Stéphane Jobard. Et c'est aussi le match de la...
Les retrouvailles. Les
retrouvailles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, Fanche. D'Olivier Dalloglio avec Dijon. Donc, comme Thomas l'a dit, il a laissé un très très bon souvenir avec Dijon. Mais c'est pas pour ça qu'il faudrait leur laisser des points.
Je pense qu'il a envie, Dalloglio, en plus de battre Dijon, vu comment ça s'est terminé. Alors, pas contre les Dijonais en eux-mêmes, mais contre leur président. Ça s'est pas super bien fini. On sait qu'il a été limogé en fin d'année civile. Je crois que c'est même le 31 décembre.
Le 30 décembre, je crois.
30 décembre, un truc du genre. Ça, c'est des choses qui... C'est dégueulasse, quoi. Ça se fait pas. Même si on n'est pas dans le milieu du travail, c'est pas les bisounours, mais il y a des choses qui se font quand même avec certaines classes ou pas. Et à mon avis, Dalloglio...
Surtout que c'était Dalloglio, quoi. C'était pas un entraîneur intérimaire.
Ouais, c'est ça. C'était un gars qui était là depuis
5 ans, monter le club en Ligue 1. Un peu de classe, quoi.
Eh ben non, visiblement le président Delcourt, qui est quand même assez mal vu à Dijon en ce moment, n'a pas jugé nécessaire d'avoir cette classe-là. Donc je pense qu'Olivier, effectivement, alors évidemment qu'il veut gagner tous les matchs, c'est un peu bidon ce que je dis, mais il va peut-être s'appliquer plus que jamais. En plus, il connaît l'effectif adverse, ça peut être intéressant, en tout cas une partie de l'effectif adverse, ça peut être intéressant pour nous. En tout cas, ouais, moi je suis confiant dans la mesure où je suis pas. Il y a des absents aussi côté Dijonais, notamment leur défenseur central Aguerde, qui a joué beaucoup de matchs en tant que titulaire. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose. Et une victoire nous mettrait dans des conditions, on aurait 17 points. Alors évidemment, on va pas faire de la science-fiction, mais nous mettrait dans des bonnes dispositions. Et on irait à Amiens plus libéré peut-être, et même avant de recevoir Nantes et PSG. PSG, surtout, on sait que c'est un match bonus. On n'aurait pas le couteau sous la gorge, quoi.
Donc nous sommes actuellement au quart du championnat et oui. On a donc un tiers des points nécessaires pour le maintien. J'ai calculé rapidement, on est sur une base de 53 points, donc ce qui nous placerait sûrement en milieu de tableau à la 10-11e place, voire un peu plus haut. Donc pour l'instant, le début de saison est bon et une victoire effectivement contre Dijon, ça nous propulserait les mains dans le slip, quoi. Là,
bah ça nous ferait 17 points. Je sais pas combien il faudrait être à la trêve, mais par contre, il faudra faire attention parce qu'on a des très gros matchs qui arrivent aussi. Hein. Il nous reste Marseille, Paris, Lille. Donc, c'est quand même des rencontres qui sont pas simples, des points qui peuvent être vite perdus. De toute façon, je pense pas qu'on compte sur ces matchs-là pour en remporter. Hein. Donc, la rencontre contre Dijon est d'autant plus importante. À domicile en plus. Faut vraiment pas se... au pire, un match nul, quoi. Mais surtout pas les relancer et les faire revenir sur nous.
Sur ce match contre Dijon, sur la structure même du match, on va peut-être avoir un match assez inédit, dans le sens où Dijon, et j'ai pas vu toutes les équipes de Ligue 1 cette saison, mais je crois que c'est la seule à avoir ce style de jeu encore un peu archaïque, c'est-à-dire très vertical, où on balance énormément de ballons sur un grand
terrain. Sur Denis Bain.
On l'espère, mais c'est pas forcément quelque chose auquel on était confronté jusqu'ici, et soit on va les bouffer, soit ça peut nous désarçonner, donc ça va être un match un peu spécial à préparer.
Bah on sait que le jeu aérien, c'est pas notre point fort défensivement, même si Bain et Castelletto maîtrisent. Après, on a un gardien qui est assez petit, des défenseurs latéraux qui ne sont pas forcément très grands. D'ailleurs, je ne sais pas, au niveau de la compo, on parlait de est-ce qu'on reste en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Au niveau de la défense, Bâle, Perrault, Bâle.
C'est ça, c'était le prochain débat que je voulais lancer. Bon, lance-le directement.
Bah, je te coupe l'air sous le pied, je m'en excuse.
Ah bah non, c'est de l'herbe hybride, donc c'est agréable. Non, mais effectivement, la question se pose. Est-ce que déjà Romain Perrault sera prêt?
Il a repris l'entraînement mardi.
Est-ce qu'il sera à 100% dès samedi? C'est pas sûr.
Pas sûr.
Et je pense que là, on a l'opportunité de ne pas prendre de risque du tout et de peut-être laisser Ludovic Bâle, le titulaire. Yann, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou si tu vois la chose de cet angle-là. Mais c'est effectivement une possibilité de voir Ludovic Bâle continuer après sa bonne performance à Angers.
Je suis d'accord, mais en mettant bien Romain Perrault sur le banc, de sorte à pouvoir avoir un profil plus offensif si besoin est.
Après, tu disais, Yann, tu parlais au dernier match, je sais plus quel podcast, tu disais que peut-être on pouvait tester Perrault ou Bâle à l'extérieur plutôt. Là, il faut voir aussi à domicile, est-ce que Bâle dans un profil plus défensif, ça... que c'est intéressant ou est-ce qu'au contraire il faut profiter de l'aspect plus offensif de Perrault pour essayer de créer un danger, même si on a vu qu'il avait du mal à le faire depuis ce début de saison. Est-ce que c'est pas un peu l'enterrer trop vite que le mettre sur le banc du coup En fait, il va profiter peut-être qu'il se revienne de blessure comme il avait fait avec Fossurier et Bello, quoi.
Oui, c'est ça. Après, je sais pas si on peut vraiment le mettre sous cet angle-là, mais est-ce que Bâle apporte peut-être plus de taille? On sait que, comme tu l'as dit un peu fanche, il y a du très gros calibre niveau taille du côté de Dijonais. Et sur les coups de pied arrêtés, bon, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Même si je doute qu'on fasse une composition d'équipe autour du prisme des coups de pied arrêtés. Alors, on ne sait jamais. Il y a du Ndong en face, il y a du Lotoa, il y a du Tavares, il y a du Ekwelemanga. Voilà. Mais il faudra faire attention quand même sur les coups de pied arrêtés. Tu as parlé tout à l'heure, Yann, des longs ballons. Et Fanch, tu as enclenché sur nos qualités aériennes qui ne sont pas bonnes. Et c'est là qu'il faudra être très bon sur les deuxièmes ballons. C'est un principe sur lequel on n'est pas très efficace pour l'instant. Parce que, évidemment, on a quelques joueurs qui attendent le ballon plutôt que viennent le chercher.
Abel Kebla et Diallo d'être attentifs.
Eux, on n'a pas trop de doutes. C'est plutôt les autres autour d'eux qui posent un peu plus de questions. Peut-être des joueurs à suivre de votre côté, messieurs.
Moi, alors, ce sera leur gardien. Alfred Gomis, là, il était donc dans l'équipe type de l'équipe ce week-end, 8 sur 10 après son match contre Lyon, il a fait des belles parades, hein. Et dans l'ensemble ça a l'air d'être un gardien plutôt efficace, ils ont pris très peu de buts sur les derniers matchs, donc à mon avis ça peut être le genre de gardien qui brille, hein, sur une rencontre et qui peut nous emmerder pas mal. Donc voilà, bon gardien côté Dijonais, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir vu tous les matchs de Dijon cette année. Donc je ne m'exprimerai pas forcément sur le reste, mais lui...
Pour moi, à la base, je voulais partir sur le défenseur central Aguerne, Naïf Aguerne de Dijon, mais il s'est blessé contre Lyon, il ne sera pas là. Et du coup, je vais choisir son remplaçant. Je crois que c'est Senou Koulibaly, beau bébé, il faut le dire, et qui surtout aura la mission de remplacer Aguerne, qui est un peu leur seul défenseur qui sait faire des passes, quoi. Sans être hostile, mais... On sait qu'Ekwelemanga, c'est pas forcément des relances courtes, ni même des relances dans les pieds.
Ni même des relances.
Oui, ni même des relances. Et Koulibaly, ça va être son rôle, visiblement, puisque c'était celui d'Aguerne. Ça peut être un point faible, ça peut être un point fort, et on attend de voir. Il a fait quelques belles performances pour l'instant, il n'a pas beaucoup joué, mais quand il a joué, c'était correct.
Alors moi, je vais choisir l'évidence, hein, Julio Tavares, qui, je pense, sera peut-être la seule menace offensive du côté dijonnais, le seul joueur qui peut marquer des buts de façon constante. Un joueur qui pèse.
À surveiller comme le lait sur le feu. Il a marqué 3 buts sur les 5 Dijonais depuis le début de la saison.
Donc, monsieur 60%.
Monsieur 60%, voilà.
Alors, côté des Brestois maintenant, on va peut-être commencer par toi, Yann.
C'est un choix difficile, mais du coup, je vais choisir Irvine Cardona.
Aïe, j'allais le choisir aussi. Consensus.
En espérant qu'il poursuive sa lancée et même qu'il joue, quoi. Mais voilà, je me dis que ça peut être le début d'une très belle histoire. Hein. C'est 10, 15 buts, pourquoi pas. Donc, Cardona.
Moi, ce sera Johan Cour. Johan Cour qui n'a pas joué à Angers.
Il fera son retour un peu comme toi dans ce podcast.
C'est ça, voilà. En fait, je voulais saluer les retours. Non, comme il n'a pas joué à Angers, ça fait donc 3 semaines. Hein, ça fait 3 semaines parce qu'il y a la trêve internationale. J'attends de voir Yann disait qu'il serait sûrement titulaire et je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Hein. J'attends de voir comment est-ce qu'il a digéré un peu son nouveau statut, parce que finalement l'année dernière c'était un joueur de l'effectif important titulaire, mais là vraiment il est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe hein, depuis le début de saison grâce à ses statistiques. Comment il a digéré cette un peu nouvelle médiatisation aussi? Et donc j'attends de voir son match. Je ne suis pas du tout inquiet quant à son implication, pardon, mais voir s'il est capable de poursuivre sa belle série statistique et d'offrir encore de belles offrandes à Charbonnier, Cardona ou autres.
Plutôt sur Gaëtan Charbonnier.
Il faudrait qu'il marque, c'est vrai.
Voilà, donc c'est ça, il faudrait qu'il marque. Et quoi de mieux que de le faire contre un adversaire presque de Ligue 2, hein. De Ligue 1,5, on va dire. Un peu comme nous d'ailleurs. C'est l'occasion pour Gaëtan Charbonnier. Alors il va avoir des sacrés clients face à lui, notamment au niveau physique.
Ça lui plaît pas trop, ça.
Mais non, mais voilà, il va continuer à revenir un peu derrière, hein, et de toucher le ballon. Mais peut-être au niveau des déplacements, il faudra être intelligent au niveau des déplacements. Et je le vois bien, déjà, avoir des occasions dans ce match, chose
C'est vrai que
qui n'est pas le
tu fais
cas
bien
à
de
tous
dire
les
ça parce que
matchs.
depuis quand il n'a pas eu d'occasion nette Charbonnier en fait? Parce que contre Metz il n'en a pas, contre
Je dirais
Angers.
contre Monaco, il est un face-à-face.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Et voilà, j'attends que, peut-être pas un but, mais un gros match au moins. Une passe décisive, peut-être. Ce serait déjà suffisant.
Je pense que maintenant la preview de Dijon est terminée. Avec, on remercie d'ailleurs notre intervenant dijonnais pour son intervention. Place maintenant au traditionnel jeu, avec peut-être pour commencer un retour sur le classement. Alors, c'est pas très poli de parler que ce soit en premier, mais bon, je suis en tête avec 16 points. Largement en tête d'ailleurs, hein, devant Quentin qui a 7 points, qui a doublé du coup Yann hein, sur cette dernière semaine, qui n'a que 5 points. Donc, messieurs, aujourd'hui, 3 ou 4 questions en fonction de vos capacités à répondre et de ma volonté de vous donner un bonus ou pas. Êtes-vous prêts?
Oui.
Alors, il y en a une qui sera un peu dure, mais on va voir. Alors, en fait, ce Brest-Dijon, je vais articuler mes jeux autour d'un historique d'un de ces matchs et aussi autour d'Olivier Dalloglio, du coup, puisque c'est un peu le dénominateur commun de la rencontre. Olivier Dalloglio, qu'on connaît comme entraîneur, hein, mais qu'on connaît également en tant que joueur. Alors, il a joué dans quatre clubs, Olivier Dalloglio. Est-ce que vous pouvez me citer les quatre clubs d'Olivier Dalloglio ou combien pouvez-vous m'en citer?
Moi, là, j'en ai que un. Donc,
Quentin?
alors j'en ai trois, moi, je crois.
D'accord. Bah, je t'écoute.
Rennes,
C'est bon.
Alès
C'est bon. L'Olympique d'Alès.
et Strasbourg.
C'est bon. Très bien. Il y avait entre-temps, entre Strasbourg et le Stade Rennais, Perpignan, où il a fait une saison.
Ah,
Donc
voilà,
il a joué,
d'accord,
il a
bah
commencé
oui.
à Alès, l'Olympique d'Alès, donc le club de sa ville, puis ensuite à Strasbourg, où il a fait plusieurs saisons. Perpignan, puis Rennes, et il s'est blessé en fait à Rennes, et du coup il a dû mettre un terme à sa carrière. À ce moment-là. Donc le premier point va pour Quentin. Donc toujours sur Olivier Dalloglio. Alors là, ça va être. Je n'attends pas la réponse exacte parce que si vous trouvez ça, je m'inquiéterai presque pour votre santé mentale. Mais ça va être celui qui sera le plus près. Combien de matchs Olivier Dalloglio a-t-il dirigé en tant qu'entraîneur du DFCO?
250.
250.
Je suis parti un peu sur la même chose, donc j'ai le joueur, j'ai monté à 275.
Oh là là! Oh là là! On a failli avoir un top. C'est 273 matchs dirigés par Olivier Dalloglio. Ça fait un paquet quand même. 273 matchs. Sans une victoire. Et après, le reste en nul et en défaite. Donc, Yann égalise. Bravo. Un partout. Brest-Dijon. On affronte souvent cette équipe, notamment en Ligue 2. Ça fait un petit moment qu'on ne les a pas rencontrés. Mais en tout cas, ce sera le 10e Brest-Dijon depuis un très beau match. Un match qu'on avait remporté le 22 décembre 2009 là-bas. Il y avait donc un tas de neige où les joueurs avaient été fêter la victoire et tout avec les supporters. Donc c'est le 10e Brest-Dijon depuis ce match-là. Combien de Brest-Dijon avons-nous remporté depuis ce match en 2009?
Pas de très bons souvenirs avec Dijon, donc je dirais 2.
Deux.
Je vais dire 3.
Et le point est marqué par Yann parce que c'est zéro. Nous n'avons plus battu Dijon depuis 2009. On n'a fait que des nuls et des défaites.
Ah, la question piège.
Et la question
Oh.
piège, elle était là. Brest-Dijon, nous sommes le 22 décembre 2009. Il fait froid. Brest mène 1-0 depuis un but de Benoît Le Soimier et va s'imposer 3-1 grâce à des buts de Nolan Roux et d'Oscar Evolo, ce qui est assez improbable. Mais Dijon avait égalisé à la 73e minute. Je me souviens, j'étais petit, j'étais allé voir sur l'ordi le résultat. En live, il y avait 1-1, Dijon avait égalisé, j'étais très énervé. Bref, je pensais jamais qu'on allait gagner. Et finalement, on a gagné. Voilà, une fois que j'ai raconté ma vie, je peux vous poser la question. Qui est le buteur dijonnais de ce match? Et c'est une question qui vaut 2 points.
En 2009.
2009, buteur dijonnais. Il a joué également à Sochaux. Pas grand par la taille. Je suis. Mes initiales sont M-I.
Isabelle.
Eh oui, c'est le point. Il prend l'avantage et il gagne cette journée de jeu. C'est Mickaël Isabelle à la 73e minute. C'est 2 points pour Quentin qui s'impose donc 3-2 face à Yann. Alors, place au pari.
Alors, les paris, alors je vais commencer rapidement. Moi, pour moi, ce sera une victoire de Brest à 2,25. Voilà, il n'y a pas besoin vraiment de faire une dissertation dessus. Hein. Je pense qu'on est meilleur que Dijon, donc on va gagner. Même si ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, comme on l'a vu le week-end dernier.
Moi, je vais embrayer et maintenir avec mon état de confiance actuel une victoire de Brest. Alors, je ne connais pas la cote, mais une victoire de Brest avec plus d'un but d'écart, donc 2-0, 3-0, 3-1. Je nous vois remporter cette victoire et ce match avec la manière cette fois-ci.
Alors, je vais te dire tout de suite la cote en question, puisque c'était un pari que j'avais pensé faire.
Ah, pardon.
Je te dis, la victoire de Brest avec au moins 2 buts d'écart, elle est à 4-10.
4-10. C'est intéressant. J'aurais pu parier aussi que Quentin va très bien manger samedi, mais c'est trop facile, la cote est à 1-0. Hein.
Et pour moi, je vais être encore plus optimiste que Quentin. Je vais jouer Brest gagne à la mi-temps et gagne à la fin du match. C'est coté à 3.
Bah, un Brest on air plutôt positif cette semaine.
Ah oui, très optimiste sur les chances du Stade Brestois. Enfin, si on n'est pas confiance contre Dijon, on ne le sera jamais cette saison.
Oui, effectivement. Il ne faudra pas qu'on commence le podcast de la semaine prochaine en la queue entre les jambes, si je puis dire, en ayant perdu. On aura l'air tous un peu cons. Mais après, on a raison d'être optimiste. Je pense que les conditions sont réunies pour.
Bon, bah, c'est terminé pour cette semaine, il me semble. Hein. Il n'y a pas vraiment de choses à rajouter. On vous remercie d'avoir suivi ce podcast. On vous souhaite un bon match si vous y allez contre Dijon. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même endroit, pour le débrief de Brest-Dijon et la preview. Alors, pas de Metz-Brest, puisque on va pas se mentir, hein, on s'en fout un peu hein, de Metz-Brest. Mais il y aura en revanche Amiens-Brest le week-end suivant, au stade de la Licorne. Donc, si vous allez au stade de la Licorne, peut-être faites attention, parce que vous pouvez mourir si vous allez dans le parcage visiteur. Mais on discutera plus longuement jeudi prochain. Mais bonne semaine à tous, bon match, et allez Brest, salut.
Allez, à jeudi pour débriefer la victoire. La croisière et dans la planche baleinière, chamboué notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.